Radio Campus.
Vous n'écoutez pas de musique chez vous?
Ah non, plus du tout, non. On a des concerts de silence, nous.
Dites à cette bêtasse de fermer sa gueule. Dis-le lui toi-même, connard. Non, est-ce que je te dis, me traite pas de con.
Radio Campus.
Le style est efficace, dirais-je.
88.3.
La merde, fermez-la tous.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y a aujourd'hui 150 ans exactement qu'eut lieu la séance royale.
Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, 14 juillet 1937.
Ce jour-là, le roi Louis XVI, admettant les principes du régime constitutionnel et les droits essentiels de l'homme et du citoyen réclamés par les trois ordres sans distinction, reconnut que la révolution de la liberté était vraiment nationale. Mais en se prononçant pour le maintien des privilèges et des prérogatives de l'aristocratie, il marqua l'objet propre de la révolution de 1789, qui fut celle de l'égalité dans la liberté.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans le deuxième chapitre de cette rapide histoire de Jean Zay qui devient à seulement 32 ans ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du gouvernement de Front populaire de 1936. Jean Zay qui nous a laissé un héritage toujours d'actualité, mais pour combien de temps? On le rappelle, on doit un tas de choses à Jean Zay. Les 3 degrés d'enseignement, l'unification des programmes, prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans, classe d'orientation, activité dirigée, enseignement interdisciplinaire, reconnaissance de l'apprentissage, sport à l'école, œuvre universitaire, donc les futurs CROUS, les bibliobus et même un projet d'ENA. Et en tant que ministre des Beaux-Arts, Jean Zay nous a légué CNRS, Musée National des Arts et Traditions Populaires, Musée d'Art Moderne, Palais de la Découverte, la Réunion des Théâtres Lyriques et Nationaux, le Festival de Cannes et bien des mesures de protection des créateurs de cinéma, de théâtre, de livres, de culture. Mais au-delà de ce révolutionnaire héritage, l'histoire de Jean Zay est aussi celle d'un homme courageux qui a payé de sa vie son engagement contre les barbaries fascistes. Le parcours de ce républicain convaincu peut d'ailleurs aussi faire penser à celui d'un autre républicain dont la famille, qui avait elle aussi des origines juives, quitta l'Alsace de 1870 pour ne pas être occupée par les Allemands. Le capitaine Dreyfus, dans une mascarade de justice de ce début de XXe siècle, accusé à tort et sans preuve d'avoir trahi la France. Tout comme presque 40 ans plus tard, le régime des traîtres fascistes de Pétain accusera injustement Jean Zay de désertion, tout comme de Gaulle d'ailleurs. Entre ces deux caricatures de justice espacées de près de 4 décennies, c'est bien la même caste de droite qui non seulement accuse des innocents, mais c'est aussi cette même caste qui va en 1940 commettre ce même crime de trahison en faveur de l'ennemi et permettre cette étrange défaite de la France. Car face à l'ennemi, qui a réellement trahi ou déserté en 1940? Pas le soldat Jean Zay, mais certains de ses chefs militaires, très certainement. Et c'est notamment cette histoire que nous allons aujourd'hui vous raconter avec Hélène Moucharzet, cadette des deux filles de Jean Zay. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous allez vite arriver aux sombres pages de la collaboration des années 40-44, collaboration des milieux économiques français qui commence d'ailleurs bien avant 1940. Vous allez passer par la drôle de guerre de 39, puis par l'étrange défaite de 40, si ce n'est le choix de la défaite face à l'invasion des armées nazies, qui, avec la trahison d'une partie de l'état-major français, achève en quelques semaines ce que les armées du Kaiser Guillaume n'avaient pas réussi en 4 années de 14-18. Qui plus est, en envahissant la France, en repassant par la Belgique, c'est-à-dire par là où les Allemands étaient déjà passés en 1914. Ça, c'est de la stratégie de haute volée. Hein. Mais avant d'en arriver à ces heures honteuses, retour sur l'enthousiasme du Front populaire de 1936 et sur le gouvernement Blum dont Jean Zay sera finalement l'un des plus brillants ministres. Alors on l'a déjà dit, hein, la coalition de Front populaire de 36 est une fragile alliance composée des socialistes de la SFIO, appuyée par les communistes, mais qui ne veulent pas, eux, siéger au gouvernement, pas de trahison avec les bourgeois. Coalition de Front Populaire où l'on trouve aussi le Petit Parti Radical, qui est traditionnellement un parti bourgeois, conservateur, à la droite de la SFIO, qui elle-même n'est déjà pas tellement à gauche, des socialistes quoi. Encore plus suspect de collaboration de classe avec les gouvernements bourgeois que les socialistes, il y avait donc les radicaux, dont on disait à l'époque qu'ils étaient comme des radis. Les radicaux, les radis roses, moitié blanc, moitié rose, mais toujours à côté de l'assiette au beurre.
Entre les blancs et les rouges, nous voulons demeurer les bleus, ni radicaux, ni marxistes, ni conservateurs, radicaux socialistes, et c'est assez.
Le parti radical, c'est aussi le parti de Daladier. Celui qui va signer avec Hitler la trahison des accords de Munich de 1938, qui sont un pacte de non-agression que France et Angleterre passent avec les nazis, un an avant le pacte germano-soviétique de 1939, qui servira de prétexte à Daladier pour faire emprisonner communistes et militants syndicaux.
Nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence.
Mais qu'est-ce qu'un homme de la vraie gauche comme Jean Zay faisait donc dans ce trouble parti radical ? Alors Hélène Moucharzé, vous nous avez déjà expliqué la dernière fois que votre père était au parti radical, notamment parce que votre grand-père, Léon Zay, y était aussi.
Tout jeune, en effet, il adhère au parti radical, dès qu'il est en âge de voter, c'est bien simple. Mais très vite, il se situe à la gauche de ce parti radical. C'est elle du parti radical qui va poursuivre et qu'on a appelé les jeunes turcs, ou bien les historiens préfèrent maintenant le nom de jeunes radicaux. Ce sont des jeunes gens tout à fait ancrés à gauche hein, et qui souhaitent rénover ce parti radical, le dépoussiérer, le dénotabiliser un petit peu, parce que c'était un parti notable. Et il va déjà mener un premier combat au sein de ce parti, en particulier avec un compagnon et un ami qui est Pierre Mendès-France, mais aussi Pierre Cotte et d'autres. Donc ça, c'est un combat qui commence très tôt et il va être un de ceux qui va vraiment être artisan de l'adhésion du Parti radical au Front populaire.
Le gouvernement de Front populaire,
Léon Blum,
est constitué.
1936.
Son programme est le programme du Front populaire. La semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier.
Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos, lorsque l'horloge sonne midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi.
Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti.
Michel est à la pêche,
Lulu chez des amis.
Et Robert se dépêche
d'aller retrouver Mimi.
On a mis sur la porte avis, avis.
Aux raseurs de toutes sortes,
fermés jusqu'à lundi.
Mon amoureux me guette, je vole dans ses bras.
Ce sont deux jours de fête dans la petite maison là-bas.
On a mis sur la porte avis, avis. Aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi.
Fermés jusqu'à lundi, Mireille et Jean Sablon pour évoquer les premiers congés payés de 1936. C'est toujours aujourd'hui le souvenir de l'immense espoir qui souleva les pauvres qui, par la lutte syndicale et la grève, oblige Léon Blum à négocier des conquis sociaux. Augmentation de salaire, congés payés et les conventions collectives, ancêtres du Code du travail, détruit par les prétendus socialistes de 2016, qui rendent là un bien triste hommage à leurs ancêtres socialistes de 1936. En 1936, le capital français va donc plier face à la grève, en tout cas pour un petit moment. Car les milieux économiques français savent qu'ils auront très bientôt leur revanche sur ces salopards à casquettes qui viennent polluer les plages des riches avec leurs congés payés. Et c'est dans cette lutte d'espérance, de progrès social et d'égalité que Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, impulse avec énergie et intelligence un tas de révolutions démocratiques et de gauche. Des révolutions qui dérangent un ordre établi qui d'ailleurs ne se laisse pas faire, car rien ne sera facile pour le ministre. Mais à l'échelle internationale, cette période de Front populaire en France, c'est aussi l'inéluctable montée de la guerre dans une Europe couverte de régimes fascistes ou totalitaires. Europe en crise économique depuis le krach de 1929. Europe traumatisée par les 10 millions de morts de 14-18, dont près d'1 300 000 en France. Jean Zay devra plus tard choisir. Partir de ce gouvernement qui, en 1938, baissera sa culotte devant Hitler, ou continuer son travail de démocratisation de l'éducation et de la culture, voire peut-être même déjà entrer en résistance.
Il y a en effet des réformes tout à fait de gauche, et il ne faut pas oublier que sous le gouvernement d'Aladier, un peu plus tard, un vrai problème s'est posé à lui, parce que d'abord, il est absolument anti-munichois, c'est-à-dire que ces accords de Munich qui consistent à au fond capituler devant Hitler en lâchant complètement les Tchèques, vraiment les accords de la honte, quoi. Ça, mon père était violemment contre, et au sein du gouvernement, il a mené un combat contre Georges Bonnet, qui lui était au fond l'artisan de ces accords, et donc il était violemment contre. Et s'est posé le problème de savoir s'il restait au gouvernement. Il a hésité beaucoup. Finalement, un certain nombre d'amis proches des radicaux, mais aussi certains socialistes, lui ont dit qu'il fallait rester pour justement continuer à lutter de l'intérieur. Hein, et que, au fond, il est resté, malgré tous les désaccords qu'il a pu avoir, pour maintenir une ligne dont il savait qu'elle était menacée par certains au sein du gouvernement d'Aladier. Et en particulier, la ligne de résistance, en effet, à Hitler, puisqu'il faut rappeler aussi qu'il a été en 1936 partisan de l'aide aux républicains espagnols, mais je crois qu'on en a parlé la dernière fois.
Non seulement il y avait la droite avec ses journaux et ses attaques odieuses, etc. Bon, alors ça, c'était déjà l'ennemi officiel, si j'ose dire. Même en interne, il devait être pris entre une multitude de feux, c'est-à-dire au sein de son propre parti, avec des rivalités. J'ai entendu qu'il y avait un gars qui était agrégé de je ne sais plus quoi, qui avait été très jaloux de le voir ministre.
Dès qu'il est nommé ministre, alors il faut bien se rendre compte, c'est un tout jeune ministre.
32 ans.
Il a 32 ans. Il n'est pas spécialiste des questions d'éducation. Pourquoi Léon Blum, finalement, l'a remarqué, hein. D'abord, pour, en effet, le travail qu'il a fait pour que son parti rentre au Front populaire, et puis cette transition qu'il a assurée au moment des élections de 1936. Donc, il devient ministre de l'Éducation nationale, et normalement, dans les mœurs de la Troisième République, ça aurait pu être le président de la commission de l'enseignement, qui était en effet un accroché, je crois, son nom c'est Hippolyte Ducourt, et qui, lui, espérait bien être ministre. Alors, vous imaginez un homme plus âgé, mais en plus qui est spécialiste, qui est agrégé. Mon père était avocat, donc encore une fois, pas du tout désigné forcément pour l'éducation nationale. Il a eu cette opposition-là, au sein même du gouvernement. Il a eu l'opposition d'un certain nombre de... On appellerait ça des lobbies. Je prends un exemple, l'ENA, par exemple, l'École nationale d'administration. Il dépose en 1937 un projet de création d'une école nationale d'administration. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, il y avait une école libre des sciences politiques, qui était une école privée, qui formait les hauts fonctionnaires.
Quand vous dites privée, il faut aussi entendre payante.
Privée, payante, bien sûr. Forcément, c'était les élites qui allaient là. Jean Zay, donc, veut ouvrir le recrutement de façon démocratique. Et cette école, l'ENA, est destinée à ça. Il a cette phrase que j'aime beaucoup, « Quel enfant du peuple a jamais pu être ambassadeur ?» dans ce grand mouvement de démocratisation, à la fois de l'éducation, de la culture et de la formation aussi des futures élites du pays. Et là, alors, il va avoir l'opposition, mais alors farouche, de cette école libre des sciences politiques et des gens qui la soutenaient, à tel point qu'ils vont réussir à bloquer le passage au Sénat de ce projet de loi. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, vous savez qu'il a eu toute une politique en faveur du livre. Bon, le statut de l'auteur, etc., etc. Et là, il va avoir la violente opposition des éditeurs. Et ça, il le dit dans Souvenirs et solitude, rien n'a été simple. On a l'impression, comme ça, rétrospectivement, alors que c'est une époque magnifique, c'est vrai que c'est une époque magnifique, mais que c'était... Non, à chaque pas, et ça, il le dit dans Souvenirs et solitude, il a à la fois à combattre contre les opposants à son projet, donc soit qui veulent le statu quo, alors je ne parle même pas de la droite là, ou même de l'extrême droite, qui déchaîne contre lui cette campagne antisémite dont on a parlé l'autre jour, mais aussi ceux qui tiennent les rênes et qui n'ont pas envie d'être dépossédés des pouvoirs qu'ils ont.
Ce qui fait qu'il doit même déranger au sein de sa propre coalition.
Il a eu toujours le soutien de Léon Blum, hein. Je crois vraiment que ça... Non, il a été soutenu par le chef du gouvernement et il a été soutenu par ce foisonnement d'associations qui existaient avant et dont il s'est inspiré pour tous ses projets, mais qui sont nés aussi au moment du Front populaire. Le Front populaire, enfin l'arrivée de cette gauche unie au pouvoir, a favorisé l'éclosion. C'était un véritable feu d'artifice, d'idées. Et donc ça, c'est des gens qui l'ont soutenu. Et d'ailleurs, il raconte dans Souvenirs et solitude, quand il fait la guerre, la drôle de guerre là, à l'Est, un jour, il rencontre des instituteurs. Et les instituteurs le reconnaissent et vont chaleureusement le saluer. Et ça, il le dit dans ce livre, ça lui fait un plaisir formidable. C'est très rare qu'un ministre soit aimé de ses enseignants. Et lui, il a été aimé de ses enseignants. Mais aussi parce qu'il leur a fait confiance. Hein. Il avait une méthode de dire, voilà, c'est vous qui avez la pratique, vous connaissez vos élèves, donc je vous donne quelques directives, parce que bien sûr, le ministre donne les directions. Mais à partir de là, vous respectez ces grands principes et vous inventez.
Et maintenant, document extraordinaire. En 1937, Émile Chautard, ouvrier typographe et spécialiste de l'argot, reçoit les palmes académiques du ministre des Beaux-Arts Jean Zay, lui-même ancien journaliste qui connaît bien l'odeur de l'encre, car dès l'enfance, Jean Zay a fréquenté l'imprimerie du journal de son père. Et il le dit ici.
Cher monsieur Chautard, depuis 18 mois, il m'est arrivé souvent de remettre des distinctions honorifiques. Les palmes académiques, cela peut paraître modeste, mais je vous prie de considérer que pour un écrivain, un universitaire, c'est un peu ce que la médaille militaire est pour un soldat. Et puis vous avez parlé de telle manière de la langue verte que cela valait bien un ruban violet. Et ce violet, il est de la couleur de votre modestie, de votre simplicité et du dévouement persistant que vous avez consacré à une profession qui est chère aux journalistes et aux écrivains. Ce que j'ai voulu consacrer modestement, ce sont les mérites, en effet, je ne dis pas du vieux typographe, puisque votre jeunesse est persistante, mais du typographe fidèle et de l'écrivain. Pour le typographe, on m'excusera de me souvenir des désirs particuliers à le célébrer. Fils d'un vieux journaliste, 40 ans de profession, qui est resté volontairement fidèle à elle, sans jamais, malgré les tentations, céder à l'attrait des chemins divers et tentants de la politique et du Parlement, plus courageux en cela que son fils, son ancien secrétaire de rédaction, je me souviens trop de ce qu'à travers la petite vie du quotidien paternel, représentait pour les passants qui le regardaient du trottoir, le typographe derrière sa machine, ce magicien mystérieux qui faisait naître sous ses doigts la traduction matérielle de la pensée de l'artiste, du journaliste ou de l'écrivain.
Soyez persuadés, potes, que mon battant comme durait cher de voir que tous les bronchieux s'étaient donné rembrot chez le bistrot pour me filer un peu de joint. J'ai bossé toute ma vie. Pendant une cinquantaine de longs, j'ai businessé dans les cabanes de Paris. J'ai respiré l'air des imprimeries où j'avais le boulot d'équipe à la bonne. Rien ne pouvait me faire plus de plaisir que de voir une sauce comme celle-là. Des michetons, des rupins, des émarles dropèrent à cette réunion qui fut tout ce qu'il y a de battre. Voilà mes sociaux, ce que j'entendis. Je ne me défouraille pas. Bonjour aux amis, à tous les garçons, à toutes les poules. C'est Mimille qui vous dit bon.
Émile Chautard, ouvrier spécialiste de l'argot décoré par Jean Zay, a noté que c'était à l'époque où les Français, et notamment les politiques, avaient plus de 3 mots de vocabulaire à leur disposition. Assez clair, hein, trop pas.
C'est la vie qui va,
c'est la vie qui va, tube de 36 signé Charles Trenet, qui traduit bien les joies et les espoirs du Front populaire. Congés payés, sport, culture, dont Jean Zay sera le ministre. Et preuve parmi d'autres que Jean Zay, bien que membre du Parti radical, ne s'empêtrait pas dans les histoires d'étiquettes partisanes, dès 1937, le jeune ministre travaillera fort bien avec Léo Lagrange, sous-secrétaire au sport et à l'organisation des loisirs qui est, lui, de la SFIO. Entre autres réalisations, Zay et Lagrange donneront un sérieux coup de pouce au réseau des auberges de jeunesse qui existaient déjà en 36, mais qui vivotaient et dans lesquelles on peut déjà voir les futures maisons des jeunes et de la culture, les MJC d'après-guerre.
C'est le Front Populaire qui les a extraordinairement développés, et en particulier parce qu'il y a les congés payés, justement. Les congés payés, enfin, on connaît bien les images, c'est les gens qui partent sur les routes à vélo et qui vont à la mer, et c'est, ça, c'est des gens, c'est des clients, si je puis dire, sur les auberges de jeunesse. Donc, il y a cet extraordinaire mouvement, en effet, l'éducation populaire des auberges de jeunesse, qui ne sont pas seulement des lieux où on dort, hein, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de... Et en effet, cette amitié avec Léo Lagrange était très forte. Lisez le passage dans Souvenirs et solitude. Il apprend la mort de Léo Lagrange et il parle de lui. C'est un très beau portrait de Léo Lagrange. De même, un autre, Max Ormois, qui était très ami aussi et qui est assassiné, lui. Il y a des très belles figures comme ça dans Souvenirs et solitude qui montrent que ce qui a aussi favorisé, aidé, nourri tout ça, c'est que c'est un travail collectif et avec des gens qui deviennent des amis. Les membres de son cabinet, c'était là aussi des très jeunes gens, plein d'enthousiasme, sont devenus des amis. Et ma mère nous rappelait souvent cette ambiance qu'il y avait dans son cabinet, là je parle du cabinet du ministre, qui était des relations plus qu'amicales. Et ce sont des gens qui ont continué à les voir tant qu'ils ont pu en prison et qui, après la guerre, ont été très proches de ma mère. Et ça, ça l'a beaucoup, beaucoup soutenu. Donc voilà, c'est des choses... qui sont importantes, c'est le côté humain qu'il y a dans l'action politique, mais qui compte énormément, je crois.
Quand des mois entiers on a respiré l'air de la ville, on se sent fragile et l'on ne tient plus sur ses pieds. On souffre du cœur, on perd l'appétit, on est fébrile, et comme on a peur, on va consulter son docteur. Prenez de l'huile de ricin, vous ordonne le médecin, il ferait mieux, c'est certain, de vous dire s'il était plus malin. Prends la route, mon petit gars, prends la route et ne t'en fais pas, tu guériras. Prends la route de ton choix, prends la route et va tout droit, elle est à toi. L'air de Paris te donne le teint gris, mais le grand air te le rendra plus vert. Plus de gouttes pour la toux, prends la route, elle guérit tout, prends la route.
Prends la route, chante Pils et Tabé en cet été 36 des premiers congés payés. Mais après l'espoir de 36, Léon Blum annonce la pause de 37.
Pourquoi une pause? D'abord, pour une raison bien simple, bien vulgaire, c'est que depuis 8 mois passés, nous sommes allés très vite et qu'après une course si rapide, il peut être naturel de souffler un peu. Nous pourrons repartir bientôt ensemble, repartir pour de nouvelles conquêtes, pour de nouveaux progrès et pour de nouvelles victoires.
Quand vous parlez d'avoir les moyens de sa politique, il y a autre chose aussi dont on n'a pas parlé. Il y a un très beau passage dans Souvenirs et solitude. Il parle de la tyrannie de l'équilibre budgétaire. Il explique à chacune de ses réformes. Il a fallu qu'il aille batailler devant le ministre des Finances pour obtenir les moyens nécessaires. Alors, il a fini par les obtenir. Des premières choses qu'il arrive quand il est au ministère, il construit des écoles et des lycées. Deux, il dédouble les classes. Donc, ça fait des créations de postes, beaucoup. Trois, il augmente les bourses des étudiants. En montant, mais aussi en nombre.
Il est aussi à l'initiative de la création des CROUS.
Des œuvres sociales. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la création du CNRS. Hein, aussi. Il favorise la recherche, les chercheurs. Il a fini par obtenir les moyens, mais il explique que chaque réforme a été l'objet d'une épuisante bagarre pour obtenir les moyens. Et il parle, et ça résonne actuellement. Ça.
Oui, parce que là, j'entends des hommes politiques qui essayent de nous expliquer qu'un État, ça se gère comme un budget de famille.
Qu'il faut absolument l'équilibre budgétaire. Donc justement, on est en plein dedans. D'ailleurs, ce passage a été souvent cité ces derniers temps, puisqu'on est en plein dans ce sacro-saint équilibre budgétaire. C'est-à-dire, c'est très paradoxal, c'est à la fois, en effet, l'impression que, voilà, une foule de réformes, d'idées qui vont métamorphoser quand même, en particulier la culture. On pense souvent que le premier ministère de la Culture, c'est Malraux. Que les premières MJC, les Maisons des Jeunes et de la Culture, c'est à la Libération. Que la décentralisation théâtrale, c'est à la Libération. Mais tout ça, c'est déjà dans Jean Zay. Il suffit de lire « Souvenir et solitude ». Parce que ce livre qu'il a écrit en prison, on en parlera tout à l'heure, il y a trois choses dans ce livre. Il y a à la fois le retour sur le passé, une réflexion sur ce qu'il a fait. Alors, il raconte beaucoup, mais il réfléchit. Et puis, est-ce que là, on a eu raison de faire ça, bon, etc. Il y a la méditation sur le présent de la prison, qui est très douloureuse. Et puis, il y a une partie de prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir faire à la Libération. Parce qu'évidemment, il pense à ça tout le temps en prison. Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas été suffisant? Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour reconstruire cette République qui est par terre depuis 1940, pour qu'elle soit avec davantage de justice et puis plus forte, parce qu'elle s'est effondrée. Bon, c'est bien ce qui s'est passé en mai-juin 1940.
This country is at war with Germany.
1er septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne.
Il s'est beaucoup occupé de mettre à l'abri les œuvres d'art, parce que la guerre arrivait, tout le monde la sentait. Donc c'est lui qui s'est occupé de leur transfert à Versailles en particulier. Il s'est occupé aussi des enfants pour les faire partir en dehors de Paris, parce qu'on pouvait penser que Paris allait être bombardée. Donc tout ce mois d'août 1939 est très très occupé par les préparatifs de la guerre, mais dans son domaine, c'est-à-dire préserver les œuvres d'art et d'abord préserver les enfants.
Fin du ministère de Jean Zay qui, bien que n'y étant pas obligé, démissionne le 2 septembre et se porte volontaire pour combattre. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi les démocraties occidentales ont-elles laissé l'Allemagne vaincue en 1918 recouvrer sa puissance militaire? Pourquoi France et Angleterre vont-elles en 1938 signer à Munich un pacte de non-agression avec Hitler, un an avant le pacte germano-soviétique de 1939? Pourquoi, dans le cadre de ces honteux accords de Munich, la France et l'Angleterre vont-elles trahir et offrir leur allié, la République tchécoslovaque, à l'appétit des nazis? Tout comme France et Angleterre trahiront et abandonneront sans bouger leur allié, la Pologne, aux armées d'Hitler. Pourquoi, en 1940, les armées allemandes battront-elles aussi facilement une armée française, à l'époque pourtant supposée invincible? Les Allemands réussiront-ils sans complicité française cette invasion qui ne leur prend que quelques semaines, là où ils avaient échoué en 4 années de 14-18? On l'a dit, dès 1938, Jean Zay est déchiré entre le travail qu'il a à accomplir et la lâcheté du gouvernement auquel il appartient et qui se couche devant Hitler.
Je ne sais pas si tout le monde sentait la menace, en tout cas lui il la sentait et un certain nombre d'hommes politiques aussi. Simplement, il y avait ce pacifisme très fort dans une bonne partie de la population française qui faisait que tout plutôt que la guerre, quoi. Et donc il y a eu une série de capitulations successives à partir du moment où Hitler a le pouvoir. Tout ça n'était pas une fatalité. Et si il y avait eu des régimes démocratiques qui avaient tenu bon, mais évidemment sans avoir peur à ce point de la guerre. Mais c'est facile rétrospectivement de dire voilà ce qu'il fallait faire, mais l'ascension d'Hitler, vous savez, c'est la pièce de Bertolt Brecht, la résistible ascension d'Arthur Auguy. Une parodie d'Hitler, en fait, qui montre que c'est une résistible ascension, et non pas irrésistible. Voilà, qu'il y a eu une série de capitulations.
Alors, on vous raconte souvent cette histoire. En rentrant de Munich, après avoir signé une illusion de paix avec Hitler, en échange donc de la trahison de la République tchécoslovaque, Daladier s'attend à être lynché par ses compatriotes. C'est au contraire une foule enthousiaste qui l'attend à l'aéroport du Bourget. En voyant la liesse des Français qui veulent croire à la paix, Daladier se tourne alors vers son secrétaire et lui dit « Oh les cons !»
Paris, transporté d'allégresse, témoigne à Édouard Daladier et Georges Bonnet, dont la commune action fut décisive, son enthousiasme et sa gratitude.
J'ai la certitude aujourd'hui
grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des quatre grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée.
Après la défaite, mais dès 1940, l'historien médiéviste Marc Bloch, qui avait lui aussi réintégré l'armée, écrit un petit bouquin intitulé « L'étrange défaite ». Dès 1940, Marc Bloch, qui est donc témoin direct, désigne clairement des traîtres qui ont livré la France aux nazis. D'abord, des militaires de l'état-major. Ne pas oublier que l'armée française de cette époque est une armée de caste où les commandements ne sont dévolus qu'aux riches ou aux nobles. Autre coupable de trahison mieux identifié plus tard par Marc Bloch dans un article de 1944, des dirigeants des hauts milieux économiques français qu'on appelle à l'époque « les hommes du Creusot ». Le MEDEF de l'époque, quoi, dont certains descendants sont d'ailleurs toujours au MEDEF d'aujourd'hui, soit dit en passant.
Les analyses de Marc Bloch, en effet, je vous assure qu'on les retrouve dans Souvenirs et Solitude. Il a fait la drôle de guerre. Hein. Vous savez qu'il s'engage en 1939, alors qu'il n'est pas obligé de partir, il peut rester ministre. Mais il s'engage volontairement. Bon, ce qui éclaire cette accusation qui va être celle de Vichy, de désertion, de quelque chose de complètement... Bon. Il s'engage et donc il part sur le front de l'Est. Et donc il va faire tous ces mois en Lorraine, jusqu'à fin mai 40. Dès qu'il peut écrire, il envoie des lettres à ma mère, qui sont archi-censurées, donc il ne peut pas dire grand-chose. Mais on voit très bien par des allusions, il montre par exemple le comportement de certains officiers, qui pratiquement souhaitent la défaite. Ils ne le disent pas comme ça. Mais ils parlent en particulier de conférences qui sont faites comme ça, de discussions qu'il a avec certains officiers, dont il se rend compte qu'ils souhaitent la défaite. Et donc, l'analyse qu'il fait dans Souvenirs et Solitude de cette défaite, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'a prétendu Vichy, que c'est...
La faute des Juifs et de Blum, notamment.
La composition de la société qui n'avait plus de valeur, etc. C'est pas vrai. Les soldats, ils se sont battus, mais battus. Il y a eu énormément de morts.
Et les Allemands y ont laissé des plumes aussi, hein, dans l'invasion de la France. Ça n'est jamais dit.
Et en revanche, la hiérarchie militaire a fait des erreurs folles. Des erreurs de stratégie, d'appréciation. Et donc, on peut se demander, en effet, on peut se poser des questions. En tout cas, il y avait un article de cet historien américain.
Paxton.
Qui disait dans un numéro de l'Histoire, Vichy a gagné la bataille de la mémoire. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est vrai qu'encore maintenant, quand vous discutez avec des gens, il y en a qui reprennent ce que disait Vichy, à savoir... La France s'est effondrée parce qu'elle avait plus de valeur, parce que la Troisième République s'était décomposée, etc. Sans voir la responsabilité des chefs militaires que Marc Bloch souligne très bien.
Vous avez une historienne très vilaine qui s'appelle Annie Lacroix-Riss, qui a continué le boulot et l'interrogation de Marc Bloch avec une série d'autres livres, et notamment celui-ci qui fait réponse au livre de Marc Bloch qui s'intitulait « L'étrange défaite ». Lacroix-Riss a pondu un ouvrage très circonstancié avec 200 pages de biblio, parce que c'est un rat d'archives, et ce qu'elle avance, elle le prouve, le bouquin intitulé « Le choix de la défaite ». Bloch le dit, hein, dans son, il y a le général Blanchard qui fait semblant d'être catastrophé devant ses troupes, mais qui en privé envisage très bien une double capitulation.
Dans les lettres de la drôle de guerre de Jancet, on voit ça. Il l'a vécu sur le terrain.
Ça a dû le faire souffrir épouvantablement, parce que lui, c'est un républicain convaincu.
Bien sûr. On le sent bien dans ces lettres-là.
Cette chanson de 1939 était censée remonter le moral de nos troupes qui campaient devant la ligne Maginot allemande, qui d'ailleurs s'appelait Siegfried.
Petite amie chantait ses terres pleines en train, en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent le refrain, et bientôt tout le régiment entonna gaiement.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc.
Les vieux mouchoirs et les chemises en papa.
En famille, on lavera tout ça.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried.
Si on la trouve encore là.
Autre témoin de cette étrange défaite, du manque de motivation à faire la guerre aux Allemands, puis, après l'invasion de juin 40, de la frénésie de trahison des dirigeants français, ce témoin, c'est Pierre Mendès-France, ici dans le documentaire Le Chagrin et la Pitié.
Dans certains milieux militaires régnait l'état d'esprit qui régnait aussi chez certains civils. Ils abordaient la guerre sans enthousiasme. Je ne dis pas que c'était des traîtres, tout au moins l'immense majorité. Des traîtres, il y en a eu très peu. Mais enfin, la psychologie, ou plutôt Hitler que Léon Blum, est une psychologie qui avait fait des ravages partout dans les milieux de la bourgeoisie. Donc, c'était un peu le milieu où baignaient beaucoup de militaires.
Tout le monde connaît ces journées incroyables de juin 40, où le sort finalement de la France est décidé, mais même pas en quelques journées, mais en quelques heures. Le 19 juin, le gouvernement va quitter Paris devant l'avancée allemande, quitte Paris, va à Tours et puis ensuite va à Bordeaux. Au sein du gouvernement, on sait qu'il y a un désaccord fondamental. Les uns veulent continuer la guerre en dehors du territoire métropolitain. Il y a toutes les troupes de ce qu'on appelait l'Empire à l'époque qui sont intactes. La flotte est absolument intacte. C'était une des plus grandes d'Europe, sinon la plus grande. Et donc il faut continuer la guerre, mais évidemment en dehors du territoire métropolitain. Et puis les autres, alors en tête Pétain et les chefs militaires, qui veulent l'armistice. Avec la précision que les chefs militaires ne veulent pas prendre la responsabilité de ce qui serait une capitulation, et ce qui permettrait au gouvernement de s'en aller, mais ils veulent que les politiques portent la responsabilité et donc demandent l'armistice.
Brusquement, il y a eu une sorte de mutation politique et le climat de Bordeaux était un climat abominable. La trahison s'étalait ouvertement. Le besoin de capitulation, la volonté à n'importe quel prix de s'entendre avec les vainqueurs, l'anglophobie traditionnelle en France et qui revient si facilement à la surface, tout cela s'affichait avec une espèce de cynisme affreux. Personne ne parlait de la responsabilité du chef militaire qui s'était trompé. Par contre, on attribuait toutes les erreurs à Léon Blum, au Front populaire, etc., etc. On se consolait des malheurs de la patrie en savourant des satisfactions de revanche en matière de politique intérieure, ce qui ne fait que se développer par la suite, comme vous le savez.
On connaît au sein du gouvernement ce combat et que Reynaud va démissionner. C'est Pétain donc qui devient président du Conseil et le 17 juin qui lance ce fameux discours.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon père, qui a suivi le sort de la troupe où il était, comme toutes les autres, il s'est replié et puis il est chargé d'une mission, donc il part le 19 juin, et en route, il rencontre des gens qu'il connaît, qui lui disent, le Parlement se réunit à Bordeaux pour décider qu'est-ce qu'on fait. Et lui, il est toujours député, hein, parce qu'il a démissionné de son poste de ministre, mais il est resté député. Donc, il va se rendre à Bordeaux. En chemin, il va voir le préfet, enfin, il prend toutes les assurances, puisque il était parti pour une mission, hein, donc il va à Bordeaux, puis arrivé à Bordeaux, il va voir le ministre de l'Intérieur qui lui donne une billet. Bref, tout est nickel, comme on dit. Et il apprend là qu'un bateau va partir, emmenant justement le gouvernement, le personnel de l'Assemblée nationale, des militaires, etc.
C'est le Massilia.
C'est le Massilia, pour continuer la lutte en Afrique du Nord. Ben lui s'embarque, puisque avec des gens comme Mendès-France, enfin Mandel, et ceux qui veulent continuer la lutte en Afrique du Nord s'embarquent pour aller constituer un gouvernement en exil. De Gaulle, lui, va en Angleterre, mais eux, ils vont en Afrique du Nord. Au fond, la mémoire gaulliste a recouvert complètement cet épisode. Hein, c'est-à-dire qu'on a oublié que les gens du Massilia étaient les premiers résistants aussi, hein, c'est-à-dire ceux qui refusaient l'armistice. Donc, ils embarquent le 20 juin 1940. Et c'est là, à cause en particulier de Laval et à Libert. À Libert, c'est le personnage épouvantable qui sera l'auteur du statut des Juifs un peu plus tard. Ils vont manœuvrer de telle façon, et en manœuvrant Pétain, mais enfin qui est complètement d'accord, pour transformer ce départ du Massilia en piège. Au moment où le bateau part, Pétain demandait dans quelles conditions pourrait être obtenu l'armistice. Donc il est bien décidé à demander l'armistice. Mais il laisse le bateau partir. Et il va transformer ça en piège, c'est-à-dire que les parlementaires qui sont sous les drapeaux, hein, ils sont soldats, ils sont quatre, les autres sont des civils. Mais arrivé au Maroc, il va les faire arrêter en les accusant de désertion. Ils ont quitté le territoire métropolitain alors que l'armistice est déjà demandé. Enfin, vous voyez, ça ne tient pas debout. En plus, accuser Jean Zay de désertion alors qu'il s'est engagé que pendant la drôle de guerre, ça va être les témoignages au procès. Ses chefs militaires ont voulu le décorer parce qu'il était volontaire pour toutes les missions les plus pourries. Puis ça, quel sens de déserter alors que bah, ça n'a aucun sens. Mais peu importe, hein, c'est une accusation purement fabriquée. Donc les quatre sont arrêtés, alors il y a Jean Zay, il y a Pierre Mendès-France, le dernier c'est Bilzer, et Jean Zay va être le premier arrêté le 16 août 1940. Alors il faut dire que Vichy a orchestré une campagne contre les déserteurs du Massilia effroyable, à tel point que les familles avaient accompagné, enfin, par exemple la famille de Mendès-France, sa femme et ses deux fils, et puis pour mon père, ma mère et Catherine, elle était enceinte de moi, partent sur le Massilia aussi, pour ne pas laisser la famille proche comme éventuel otage. Hein, c'est bon. Donc la famille proche part, donc il y a cette arrestation, et la propagande était telle que ma mère, qui va accoucher, a un mal fou à trouver une clinique.
Accoucher de vous.
Oui. Aucune clinique ne veut va accueillir la femme de Jean Zay. C'est dire, hein, la violence qu'il y avait. Ça, c'est Mendès-France qui raconte ça, dans Le Chagrin et la Pitié aussi. Il raconte ma naissance, d'ailleurs. Et c'est lui qui va en prison, parce qu'ils vont être arrêtés tous les deux, ils vont se retrouver à Clermont-Ferrand. C'est lui qui va dire, j'ai vu ta nouvelle petite fille, parce qu'il est arrêté un petit peu après Mendès, il est arrêté un mois après. Il dit, j'ai vu ta petite fille au Maroc, et c'est lui qui va annoncer à mon père la naissance.
J'ai parlé de capitulation, j'ai parlé de trahison. Ben, il est évident que l'antisémitisme a commencé à faire surface. Alors, bien sûr, Jean Zay et moi, ben, nous avions le malheur d'être juifs. Enfin, moi, j'étais juif, Jean Zay, en réalité, ne l'était qu'en partie de père converti. Enfin, il était, disons, d'origine juive. Ça n'a pas empêché qu'on fasse contre lui la campagne abominable que vous savez, qui s'est terminée, hélas, par son massacre. Jean Zay était arrêté, sa femme était restée à Casablanca, elle était enceinte. Elle avait toutes les peines du monde, soit dit en passant, à trouver une place dans un hôpital ou à trouver un accoucheur tellement... Enfin, il y avait une telle haine. Quand on savait qu'il s'agissait de Madame Jean Zay, on n'avait pas le courage de la mettre dans une maternité ou dans une clinique. On ne peut pas imaginer le sectarisme qui a régné à cette époque. Enfin, la grossesse de Madame Jean Zay a été... certainement très, très pénible. Elle vivait à ce moment-là avec ma femme et elles ont traversé des heures cruelles où elles ont été l'une et l'autre très maltraitées. Ma femme aussi a connu des heures très difficiles et très dures. Madeleine Zay a donc accouché de ce bébé que j'ai vu puisque j'ai été arrêté peu après la naissance du bébé. Et quand j'ai été transféré à Clermont-Ferrand, où j'ai retrouvé Jean Zay, moi j'avais vu sa fille et lui ne la connaissait pas.
Ce bébé né en 1940, dont parle Mendès-France dans Le Chagrin et la Pitié, ce bébé est la dame qui vous parle aujourd'hui dans cette émission, Hélène Mouchard-Zay, l'une des deux filles de Jean Zay, avec qui nous revenons maintenant sur l'abracadabrantesque affaire du Massilia qui mènera Vichy à organiser un grotesque simulacre de justice pour tenter de faire accuser Zay et Mendès-France de désertion.
Le bateau part et va être transformé en piège par Pétain et Laval en particulier. Il arrive à Casablanca et là, ils apprennent que le régime va les accuser de désertion. Comme de Gaulle d'ailleurs. Et donc, qui vont être jugés. On est à Rabat, donc au Maroc. Mon père est arrêté le 16 août 40 et immédiatement ramené à Clermont-Ferrand. Mais ma mère, qui a d'une part une petite fille de 3 ans et d'autre part qui est enceinte, évidemment ne peut pas le suivre. Donc elle va rester à Rabat où il y a également la famille de Pierre Mendès-France. Pierre Mendès-France s'était embarqué lui aussi sur le Massilia et lui aussi avec sa famille, parce que tous ces hommes ne voulaient pas que leur famille devienne des otages, hein, puisqu'on savait qu'ils voulaient résister à Hitler. Or, le pays était occupé. Et même chose, Pierre Mendès-France va être lui aussi ramené à Clermont-Ferrand un tout petit peu plus tard. Et donc, les deux hommes vont se retrouver à la prison de Clermont-Ferrand. Enfin, ils ne vont pas se retrouver parce qu'ils sont au secret. Donc, ils n'ont pas le droit de se voir. Mais ils ont trouvé une astuce qui est de se rencontrer en faisant la queue pour aller prendre la douche. Et c'est là, en effet, il raconte ça dans Chagrin et Pitié, qui va annoncer à mon père ma naissance. Et c'est là qu'il raconte que ma mère, donc restée à Rabat au milieu d'une campagne orchestrée par Vichy, une campagne d'une rare violence contre les gens du Massilia, c'est là que Mendès raconte que ma mère a eu du mal à trouver une clinique parce qu'aucune clinique ne voulait accueillir la femme de Jean Zay. Voilà, c'est à Rabat et je suis donc née 10 jours après l'arrestation de mon père, c'est-à-dire le 27 août. Donc ma mère se retrouve seule.
Finalement, elle a quand même réussi à trouver quelqu'un qui veut l'accueillir.
Oui, c'est ça. C'est une sage-femme grâce à une famille de juifs marocains qui s'appelait les Hamzalag, dont j'ai beaucoup entendu parler, qui l'ont aidée, qui l'ont soutenue. Lily Mendès-France, la femme de Pierre Mendès-France également. Les deux femmes se sont beaucoup soutenues, d'autant plus qu'elles avaient chacune des enfants très jeunes. Mendès avait, lui, 2 garçons, qui étaient à peu près de l'âge de ma sœur et un autre un peu plus jeune. Donc, elles se sont beaucoup épaulées. Il y avait besoin, parce que ça a été une période extraordinairement difficile. D'abord, elles étaient dans l'incertitude de ce qui allait arriver à leur mari, puisque cette accusation de désertion, c'est pas rien. Hein. Il y avait de quoi, comme dit d'ailleurs Antoine Pro, lui, il dit que Vichy aurait voulu faire fusiller Jean Zay. Et qu'il n'a pas pu, parce que vraiment, l'accusation ne tenait pas du tout. Donc, l'angoisse de savoir ce qui va arriver dans un pays inconnu, ça a dû être très, très dur. Enfin, pour ma mère, accoucher dans ces conditions-là avec un bébé, ça a dû être quelque chose d'extraordinairement difficile.
Et donc, votre mère prend la décision de rentrer en métropole avec ses 2 petites filles. Alors, pour se rapprocher de son mari emprisonné.
Il s'interroge beaucoup. On voit ça dans les lettres qui ont été publiées récemment. Dès que lui quitte le Maroc, enfin, il écrit tous les jours. Et elle lui répond tous les jours. Et on voit dans ses lettres qu'on a gardées à quel point cette question-là va être cruciale pour eux. Et interminablement, il se pose la question, lui, à Clermont-Ferrand, puis ensuite à Marseille, et puis ensuite à Rion. Il se pose la question, est-ce qu'elle doit rentrer? Est-ce que tu dois rentrer avec les enfants? Il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de... Avec un bébé, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais elle a tellement envie d'être à côté de lui. Elle souffre terriblement d'être impuissante là-bas, de ne pas être à côté de lui. Bref, cette discussion va durer plusieurs mois. Et finalement, vers le mois de mars, peut-être 41, février-mars 41, finalement, la décision est prise qu'elle rentre. Elle va rentrer fin mai 41.
Vichy va alors organiser contre Jean Zay une caricature de procès qui pourrait faire penser à un autre procès célèbre qui a eu lieu, lui, une 40aine d'années avant.
Donc, mon père est ramené à Clermont-Ferrand. Et au début, il l'accuse de 2 choses, abandon de poste et désertion en face de l'ennemi. Ils sont obligés d'abandonner l'abandon de poste parce que ça n'a pas de sens. Et désertion, alors ils maintiennent à tout prix, mais en plus c'est désertion en présence de l'ennemi. Or, à ce moment-là, l'ennemi était à 90 km. Donc c'est évidemment une accusation totalement fabriquée. On veut l'abattre et puis on veut abattre son honneur aussi, hein. Alors, il est jugé le 4 octobre 1940, à Clermont-Ferrand, par un tribunal militaire. Ce même tribunal, exactement le même, qui vient de condamner De Gaulle à mort pour désertion, parce qu'il est parti en Angleterre.
Toujours dans le chagrin et la pitié, Mendès-France et son avocat Henri Rochat se souviennent des conditions de ces simulacres de procès.
Nous avions affaire à un juge d'instruction qui était le colonel Leprêtre.
C'est un homme très intelligent, très subtil, malin, avec un côté de perversité répressive, de haine contre n'importe quel inculpé, à plus forte raison si c'était un inculpé de gauche Ou si un homme important lui tombait sous la dent, il y trouvait une espèce de jouissance morbide.
Très intelligent.
Emmanuel, je sais très bien ce que vous pensez de moi. Dans une société organisée, il faut des boueux. Dans toutes les sociétés, c'est lui-même qui a employé le mot.
Si nous avons pu dire que, bien sûr, la qualité d'Israélite ne devait rien avoir à l'affaire, nous étions absolument sans illusion et nous savions très bien qu'elle aurait à voir à l'affaire. Et l'audience a été extrêmement chaude. Elle a commencé à 9h du matin par une déclaration de Nadès France. Mon colonel, messieurs, je suis juif, je suis franc-maçon, mais je ne suis pas déserteur. Et maintenant que le procès commence. Incontestablement, l'opinion publique était terriblement travaillée par les journaux du moment, qui proclamaient tous la culpabilité a priori des inculpés politiques qu'on poursuivait, c'est certain.
Alors on a fait défiler mon colonel, mon lieutenant-colonel, mon général, enfin les gens dont je dépendais, et qui tous sont venus dire à la barre, il n'a pas déserté.
Lorsque le commissaire du gouvernement lui a dit, avec une voix qui s'étranglait un peu, qu'il était condamné à 6 ans de prison pour désertion, Mendès lui a dit, eh bien, monsieur le commissaire du gouvernement, je pense que vous aurez la croix de fer, vous avez très bien travaillé pour votre maître.
Donc, voyez le piège politique, la manœuvre politique, elle est évidente. Le procès se déroule sur une journée. L'avocat de mon père, c'est Alexandre Varenne, qui plus tard va créer La Montagne, le journal La Montagne, qui fait citer les chefs militaires qui disent qu'il était volontaire pour toutes les missions les plus dangereuses. On allait le décorer. Mais rien n'y fait. Je crois que même les membres du tribunal militaire ne croyaient pas à ce qu'ils faisaient. Ils avaient des ordres, procès sur ordre. Ils ont ordre de condamner Janzet et à la pire des peines. Et la pire des peines, c'est quoi? Déportation à perpétuité et dégradation militaire.
Tiens, ça refait penser à Dreyfus.
Ça rappelle quelque chose, en effet, tout de suite. D'ailleurs, lui-même, il fait tout de suite le rapprochement.
Il a compris tout de suite qu'il n'y aura pas de justice. C'est une exécution.
Pendant toute la période de l'instruction, qui est complètement bâclée, hein. Le juge d'instruction, qui est un militaire, il n'instruit rien du tout. Enfin, mais il se dit, c'est tellement énorme ce truc-là que j'ai prouvé mon innocence. Il suffit que je me présente devant le tribunal, ils vont tout de suite voir que cette accusation est absurde. On sent dans ses lettres, il veut continuer à y croire, mais évidemment le soir du procès, il a compris immédiatement que c'est un procès politique, qu'il n'y a rien à attendre de cette justice, qu'on a voulu la battre. Il le dit dans une lettre, il n'attend rien de la justice, mais je serai réhabilité par l'histoire. Là, il a une période très très dure. La condamnation, c'est mot pour mot, la condamnation de Dreyfus. Et qui n'a jamais été appliquée depuis Dreyfus, ça faut le savoir. Hein. C'est pas tous les jours. Il y a eu Dreyfus et il y a Janzet. Donc c'est ce qui fait qu'un historien, Olivier Loubre, dit que Janzet, c'est le Dreyfus de Vichy. Ce tribunal militaire a pris sa revanche sur l'affaire Dreyfus. Une certaine partie de l'armée n'a jamais digéré l'affaire Dreyfus. Et là, ils tiennent leur revanche. Et Janzet lui-même, dans ses lettres, fait le rapprochement.
On évoquait l'étrange défaite, puis le choix de la défaite de 40, qui implique qu'une partie de l'état-major est potentiellement trahie. Ce dont on a accusé Dreyfus, c'est crime de haute trahison en faveur de l'ennemi. Crime, en fait, qui a potentiellement été commis par des militaires de l'état-major en 40.
D'une certaine façon, oui.
Ça nous ramène à la cour de récréation, que c'est celui qui dit qu'il y est, quoi. Hein.
Cette fameuse désertion, entre guillemets, oui, en effet, c'est les chefs militaires qui ont déserté du poste qui devait être le leur, oui, d'une certaine façon, oui.
Et comme il est intelligent, Janzet, ça lui donne quand même une colonne vertébrale. Donc il va en prison. Il est quand même fort de son bon droit, si j'ose dire.
Oui, complètement. C'est-à-dire que, d'abord, il a la certitude d'être victime d'une stratégie politique, enfin d'une vengeance politique, ou d'un projet politique. Donc ça, d'une certaine façon, c'est dans le droit fil aussi du combat qu'il a mené. Comme de toute façon, il va être emprisonné à Marseille aussi, parce qu'à Marseille, il est transporté dans le Haut-Fort Saint-Nicolas, là, c'est une détention horrible, enfin, dans des conditions matérielles terribles. Il est dans un véritable cachot, c'est en plein mois de décembre, avec le mistral glacial, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de lumière, il y a juste des petites fenêtres en haut. Et il est malade, on lui retourne tout, son alliance et tout, donc très dur. Et puis, en janvier, il va être transféré à Rion, à la prison de Rion, où il va rester jusqu'en 1944. Et là, au début, il va avoir un régime, grâce à son avocat, assez proche du régime des prisonniers politiques, assez proche parce que pas tout à fait, c'est-à-dire le droit de recevoir des visites bien contrôlées, hein, des journaux qu'on pouvait trouver à l'époque, et des livres. Ça, pour lui, ça va être très important parce qu'il va beaucoup lire, beaucoup écrire en prison. Et le fait d'écrire, c'est la survie, quoi. Pour lui, c'est la survie. Il va écrire beaucoup, tout au moins tant qu'il a des crayons et du papier, et le droit d'avoir du tabac. Alors, il y a quand même une succession de catastrophes qui s'abat sur lui, c'est-à-dire il apprend que son appartement à Paris a été pillé par les Allemands. C'est le...
l'organisation des biens.
Oui, c'est ça. Qu'il va être déchu de ses droits. Il a peur à un moment d'être déchu de ses droits de père. Enfin, c'est terrible. Il est déchu de son mandat de parlementaire. Enfin, il y a une succession de nouvelles qu'il apprend en prison, comme ça, avec la possibilité de se défendre. Son régime un peu favorable que j'ai décrit, qui fait qu'il va pouvoir... Alors nous, on le rejoint en fin mai 1941. Et donc, pendant une période, ma mère va pouvoir lui rendre visite avec moi et avec ma sœur Catherine, mais qui va à l'école. Et puis, ce régime va se durcir. En 1942, d'abord, l'invasion de la zone dite libre par les Allemands fait que le régime va se durcir. L'année suivante, le général Delatte de Tassigny s'évade de cette même prison. Ça va durcir, et puis surtout 1944, c'est la milice qui est au ministère de l'Intérieur, à l'administration pénitentiaire. Donc là, le régime est affreux, plus de visites, il voit sa famille à travers des grilles. Et puis tout ça va aboutir en effet à l'assassinat le 20 juin 1944.
Jean Zay n'est pas assassiné par des nazis, enfin en tout cas pas par des Allemands.
Par la milice. C'est un ordre qui est venu du chef de la milice, Tarnan, sous forme d'un ordre de transfert, dont on dit que c'est pour la prison de Melun. Or, la prison de Melun n'a jamais été avertie, et qui sera effectuée par des miliciens. Or, jamais les miliciens n'effectuent ce type de transfert. C'est donc bien un ordre d'assassinat, comme le dit Antoine Pro. Les miliciens, donc, obéissant à cet ordre, viennent le chercher et vont l'emmener et l'assassiner dans un bois à Cussé, près de Vichy. Alors il disparaît pendant 4 ans. On ne saura ce qui est réellement arrivé qu'en 1948, quand un des assassins va être arrêté au terme d'un périple incroyable. C'est lui qui va raconter ce qui s'est passé. Et on apprend qu'en voiture, les miliciens se sont fait passer pour des résistants, ce qui était une perversité incroyable et... pour sans doute qu'ils les suivent sans résistance, et voilà, ils vont l'assassiner le 20 juin 1944. Et ma mère ne saura rien jusqu'en 1944. Bien évidemment, elle sait qu'il a été assassiné, mais elle ne connaît pas les circonstances, ni le lieu, ni ce qui s'est passé exactement.
Une peine très légère pour son assassin qui...
Il a été jugé en 1953, c'est-à-dire très tardivement. Alors il faut se rappeler que c'est la période des lois d'amnistie. Non, il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Mais il a échappé à la peine de mort, hein, qui était requise, ce qui était déjà un verdict d'indulgence. Et surtout, j'ai appris récemment qu'il était sorti au bout de 2 ans. Moi, j'ai vu pour la première fois mon père, j'avais 9 mois, quoi. Et c'est en prison, et je ne l'ai jamais connu qu'en prison. C'est quelque chose que j'ai réalisé... assez tardivement, que finalement, ces 3 ans, si on retire les 9 premiers mois, mais finalement, oui, j'ai passé une grande majorité de mon temps entre les 4 murs d'une prison. Ma sœur allait à l'école, ma mère souvent arrivait le matin avec moi, donc qui était bébé, puis elle ressortait parce qu'elle avait des tas de démarches à faire, enfin, des tas de choses. Et souvent, elle me laissait dans cette cellule avec mon père qui s'occupait de moi, qui me langeait, qui me faisait la bouillie. Et voilà, donc j'ai réalisé ça assez tardivement finalement. Non seulement que je ne l'ai connu qu'en prison, mais qu'au fond, l'essentiel de mon temps, ben, je l'avais passé entre les 4 murs d'une prison.
Vous avez des souvenirs ?
Non. Les souvenirs de mon père, non. Enfin, souvenirs conscients, non. C'est compliqué, la question de la mémoire. Il y a peut-être des choses qui peuvent revenir. Enfin, pour l'instant, à l'état actuel, souvenirs conscients, non. J'étais très jeune quand même. J'avais 3 ans et demi quand il a été assassiné. Mais voilà, inconsciemment, sûrement que si, que ça a beaucoup, beaucoup travaillé en moi.
Et voilà les amis, c'est sur ces mots d'Hélène Moucharzet que nous remercions que se termine le deuxième chapitre de cette rapide histoire de Jean Zay. Suite et fin au prochain épisode de cette série que vous pouvez réécouter sur notre site polemix et la voix off.